Écosystème, Florence Farion.
Notre invitée de ce samedi a plusieurs vies. Nous n'aurons pas assez de temps pour toutes les passer en revue. Elle a quelque chose de foisonnant et en même temps extraordinairement posé. Elle est allée balader son corps, son âme, son esprit dans de drôles d'endroits et a fait des rencontres qui ont changé sa vie. Et quand elle fait les choses, elle ne les fait pas à moitié. Une passionnée avec qui nous allons parler du lien, de ce qu'elle entretient avec ses semblables, pas si semblables, de ses liens à la terre, de ses liens au passé. On l'a dit, écrivain, voyageur, psychonaute. Elle est aussi porte-parole des peuples oubliés et c'est avec grand plaisir que nous recevons dans cet écosystème Corinne Sombrin. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Corinne Sombrin.
Bonjour.
Bienvenue. J'étais un petit peu empruntée à l'idée de vous présenter parce que c'est vrai que j'ai dit que vous aviez de multiples faces. J'aurais pu aussi parler de la musique, du piano qui a rempli votre vie pendant de longues années.
Non mais je suis très fière de me connaître quand je vous écoute.
Ah bon, bah tant mieux. Alors si je suis un miroir, ça commence bien. On aurait pu aussi parler de journalisme, ce métier que vous avez exercé pour la BBC. Alors j'ai essayé de trouver un fil conducteur à tout ça. J'y vois la curiosité des choses et des autres.
Oui, l'envie de rencontrer les autres, oui, parce qu'ils m'ont toujours apporté beaucoup.
Un côté jusqu'au boutiste, ça vous va ça
ou pas? Oui, en tout cas j'en prends le chemin, je ne sais pas si je vais jusqu'au bout mais j'ai l'intention, oui.
Vous ne faites pas les choses à moitié. Alors vous êtes venu en Suisse pour présenter votre dernier livre, Sauver la planète aux éditions Albin Michel, un livre que vous avez écrit avec Almir Narayamoga, voilà c'est son nom. Il est à côté de vous en studio et Almir est sur lui.
Oui.
Et vous avez fait un long voyage pour le rencontrer, c'est un chef indien d'Amazonie. Et dans ce livre, il y est question de leur peuple, du formidable élan de résistance qu'ils maintiennent face à la destruction de la forêt. C'est un message de mise en garde, mais aussi d'espoir, parce qu'ils inventent, il faut bien le dire, c'est ce qu'on apprend au travers de votre livre. Alors, dire que c'est pas un rejet de la modernité, mais essayer de la canaliser, choisir de garder certains aspects pour mieux en combattre d'autres, je pense notamment à Internet. Ah. On résumerait comme ça cette philosophie.
Oui, et Almir a très bien compris l'intérêt de prendre le meilleur de chaque culture. Voilà. Et ça, c'est un message qui est important et dont on parle dans le livre et qui fait qu'aujourd'hui, ben, on les appelle les Indiens high-tech, mais au-delà de ça, qui est plutôt anecdotique, ils se servent vraiment de cet outil pour faire savoir, pour transmettre leur connaissance de la forêt et leur dire qu'il y a des moyens aujourd'hui, qu'il y a des modèles qu'ils sont en train de mettre en place et qui permettent de faire en sorte que la forêt soit un outil dont les ressources peuvent être rentables et que cette forêt, un jour, si elle est bien gérée, comme eux savent le faire, elle pourra sauver la planète et les habitants de cette planète parce que si on continue à tout détruire comme ça, ça ne va pas s'arranger pour nous.
Et c'est vrai qu'on avait l'image, alors comparaison n'est pas raison évidemment, mais tout de suite il y a un déclic. Quand j'ai vu cette histoire, j'ai tout de suite pensé à Raoni, Sting, on est dans le même genre de combat, on est d'accord hein.
Exactement, et Almir continue ça, il a intégré lui, fait tout dans la douceur, dans la non-violence, il pense que on ne doit jamais imposer son opinion, c'est qu'on doit déjà discuter avec la personne qui vous propose une autre opinion, ensemble en tirer un modèle qui va permettre à tous de vivre mieux.
Oui, parce que sauver la planète, c'est avant tout nous sauver nous, parce que j'ai l'impression qu'elle s'en sortira toujours sans nous, peut-être mal. Mais
exactement, c'est ce qu'il dit dans le livre. Il dit toute façon, ce qu'on voilà, on n'est pas grand-chose sur la planète, donc tout ce qu'on doit sauver, c'est ce qui a donné la naissance à la vie, c'est-à-dire la biodiversité. Donc ça, on peut avoir un impact dessus, mais la planète, elle se débrouillera très bien sans nous.
Exactement. Alors cette émission parle de liens tous les samedis de 13h à 14h. Ce sera un peu notre fil conducteur, et j'aimerais qu'on commence à parler, Corinne Sombrin, du lien que vous avez tissé avec eux. J'ai envie de vous dire, ça se mérite déjà parce qu'ils sont au milieu de nulle part, clairement. Quoi. C'est toute une expédition déjà pour aller les trouver.
C'est vrai. Trois avions. J'ai pu les rencontrer grâce à une comédienne qui s'appelle Agnès Soral et Thomas Spitzer qui est à côté de nous, là aussi avec Almir, et qui est présidente d'une association qui s'appelle Aqua Verde et qui s'occupe de trouver des fonds pour leur permettre de reforester. Et un jour, Thomas Spitzer a emmené Almir Sur-Huy avec quelques-uns de ses acolytes au Festival d'Avignon où Agnès Soral produisait alors un one-woman show. Et quand Almir a vu ce spectacle, aussi bien qu'il le fait avec Internet et les nouvelles technologies, il s'est dit mais c'était super rigolo, j'ai pas compris les paroles mais ça m'a beaucoup amusé. Et il a dit bah, ça ce serait vraiment un moyen formidable pour nous, le spectacle, pour faire passer notre message d'une façon différente de la revendication habituelle. Alors il a discuté avec Thomas et Agnès et il leur a dit, est-ce qu'on pourrait pas envisager de mettre en place un spectacle autour de l'histoire des Sur-Huy qui serait joué par les Sur-Huy ? Et est-ce qu'on pourrait pas envisager aussi de former les Sur-Huy au métier du spectacle ? Pour qu'on, voilà, qu'on ait ce nouveau média à notre disposition. Alors Thomas et Agnès, qui sont aussi un peu fous, ont dit ok, ce serait une bonne idée. Et j'ai été contactée à ce moment-là pour participer à l'écriture de ce projet. Et voilà comment Thomas, Agnès et moi sommes partis en Amazonie rencontrer Almir et le peuple Sur-Huy.
Et c'était quoi l'impression de la première rencontre ? Elle a dû être forte, je pense.
Ça a été forte. Alors, je connaissais l'Amazonie pour y avoir été au Pérou, pour y avoir passé pas mal de temps. Et ça m'a toujours fait la même impression. C'est toujours une impression un peu de peur au départ, parce que la forêt amazonienne, c'est très bruyant. Il y a beaucoup de sons qu'on ne connaît pas. Et l'humain face à ça, ou un animal face à ça, commence à vouloir avoir envie d'identifier ces sons pour plus en avoir peur, pour savoir ce que c'est. Eux considèrent la forêt vraiment comme les arbres, comme des individus. C'est une famille pour eux. Almir dit toujours, la forêt, c'est notre école, c'est notre pharmacie, c'est notre supermarché. Et les arbres, pour eux, sont des maîtres aussi. Ce sont vraiment eux qui leur enseignent des tas de choses. Mais donc, les arbres parlent et les arbres marchent aussi. Et donc, lorsqu'Almir, on raconte cette anecdote...
Sans substance, bien sûr.
Et lorsque Almir raconte dans le livre cette première expérience où son père, Marimop, l'a emmené dans la forêt et il lui dit, voilà, cet arbre, en fait, c'est un arbre avec un tronc, évidemment, et des racines partent du tronc à environ un mètre du sol et vont se ficher dans la terre. Et ces racines, en fait, bougent en fonction de l'ensoleillement, en fonction des nutriments dont l'arbre a besoin. Et ces racines tirent l'arbre dans une direction. Il bouge effectivement d'un à deux mètres par an. Donc on l'appelle l'arbre qui marche. Et donc Almir dit, la première fois que mon père m'a dit que ces arbres pouvaient marcher, d'abord je l'ai pas... j'ai douté. Et puis après j'ai compris que si un arbre pouvait marcher, alors tout était possible. Et c'est ce qu'il a toujours appliqué. C'est-à-dire que malgré les bâtons qu'on peut lui mettre dans les roues, il est menacé de mort aujourd'hui, il a un contrat de 100 000 dollars sur la tête, il a des périodes de découragement, il le dit, il a des périodes de peur, mais rien n'arrive à arrêter cette foi en ce combat qu'il a aujourd'hui. Et donc pour lui, rien n'est impossible, effectivement. Et ce qu'il a réussi à faire, on en parle dans le livre, c'est vraiment c'est extraordinaire.
Oui,
et aujourd'hui, on parle des Sur-Huy. Aujourd'hui, on parle de leur travail, on parle de leur modèle. Il a mis en place un plan de 50 ans de gestion de la forêt de façon durable et il est consulté dans le monde entier aujourd'hui pour cette expertise parce qu'il il ne se contente pas de parler, de donner des leçons, loin de là. Et il dit, on a mis en place des choses qui fonctionnent. Donc si vous voulez faire pareil que nous, allez-y. Donc on vous l'offre, on le met à votre disposition. Et c'est ça qui est généreux dans leur démarche.
Et c'est ce qui vous a touché, vous, Corinne ?
Ça m'a beaucoup touché, oui. Ça m'a bouché. Cette générosité qui fait que on ne critique jamais ce que fait l'autre, on ne critique pas ses idées, on ne critique pas ce qu'il fait, on essaie de comprendre pourquoi il fait ça. Et il s'assoit toujours c'est un vrai chef pour moi, c'est quelqu'un qui dit on va essayer de comprendre et qui écoute ce qu'a à dire l'autre, parce qu'il pense que dans ce que l'autre a à dire, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et ça, ça m'a beaucoup touchée, évidemment.
On met le mot de démocratie ?
Absolument, oui, c'est une démocratie.
1400 âmes, à
1400
peu
âmes, voilà. Et voilà. Autrefois, 5000.
Oui.
Donc, on peut rappeler qu'en 69, le contact a été établi avec le peuple Sur-Huy, avec les premiers Blancs, qu'ils ont apporté avec eux des maladies qui n'étaient pas...
Ils n'avaient pas de défense, enfin voilà.
Ils n'avaient pas de défense immunitaire, exactement. Donc, de 5000, ils sont passés en 3 ans à 240. C'est un véritable génocide. Pour lesquels ils ont été soignés par des injections absolument inadaptées à ces pathologies. Donc on peut dire vraiment qu'on les a... que c'est un génocide, oui, vraiment. Mais loin de se comporter en victime aujourd'hui, le père d'Almir, Marimop, dont on parle dans le livre, qui est décédé aujourd'hui, fait toujours en sorte de l'élever, pas dans la haine des Blancs, mais dans le respect de ses traditions, et de leur titre, qui veut dire païter, ça veut dire les hommes vrais. Et Almir fait la même chose, il élève ses enfants dans cet idéal, c'est qu'on doit se comporter de façon consciente, mais ça sert à rien de se venger. Vous savez, un jour ces blancs, eh ben, c'est eux qui viendront nous demander des petites pousses d'arbres.
Ça met parfois longtemps.
Ah, ça met, justement. Voilà. Mais un jour, ils auront besoin de nous et ils viendront nous demander voilà, notre savoir de la forêt.
Almir, qui est là et qui est devenu chef à 17 ans, vous le disiez tout à l'heure, a un contrat sur la tête. Mmh. C'est vrai qu'il risque sa vie, risque sa peau, parce qu'il va à l'encontre d'intérêts économiques, il va à l'encontre de la déforestation sauvage. Vous lui avez posé la question de savoir comment et pourquoi. Pourquoi c'est si fort, cette conviction? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à mettre sa vie en danger?
Il le fait pour le futur, justement, parce que il veut que ses enfants aient un futur, tout simplement. Mmh. On ne parle pas de futur meilleur, on parle juste de futur. Donc ça a commencé par ça. Et puis après, ça a été construire un futur durable pour mes enfants, pour mes descendants et pour les habitants de la planète.
Et ça gêne des intérêts, évidemment.
Mais oui, parce qu'il empêche les déforesteurs de déforester. Alors c'est un peu énervant quand même.
Il y a un cinquième de la forêt amazonienne qui a déjà disparu.
Depuis les années 70, ouais. Et aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, la forêt amazonienne, c'est 6 millions de kilomètres carrés, ce qui voudrait dire les 3/5 du continent européen. Vous voyez les distances quand même, c'est énorme. Mmh. Et on pense qu'à ce rythme-là d'abattage, dans une centaine d'années, la forêt amazonienne, donc les 3/5 du continent européen, seraient débarrassés de leur forêt. Alors vous imaginez les conséquences sur le climat.
Et comment les survivants font-ils de la résistance? Est-ce qu'ils réussissent encore, Corinne Sombrin, à vivre de manière, alors je mets toujours des guillemets à traditionnel, parce que voilà, est-ce qu'ils réussissent à garder un mode de vie, malgré la connexion, vous faisiez allusion tout à l'heure à Internet, etc., dans leurs règles de vie, les us et coutumes, je ne sais pas, la vie de couple, l'éducation, la transmission, etc., ils réussissent à préserver quelque chose?
Ils réussissent à unir deux mondes, exactement, et à vivre, à pouvoir accepter leur tradition dans un mode de vie moderne. Et ça, c'est aussi grâce à Almir. Il a été élu chef d'un clan, il y a 4 clans, dans le peuple Surui. Il a été élu chef de son clan, qui est les Gameb, qui est le clan des guerriers, à seulement 17 ans. Et à 17 ans, Almir savait déjà que les racines, les traditions, c'était ce qui permettrait à son peuple de garder son identité et de garder sa fierté de peuple. Mmh. Donc il a dit, les missionnaires étaient passés par là, bien sûr, et les missionnaires avaient décidé d'éliminer toutes ces traditions. Donc interdiction d'appliquer les peintures rituelles sur le corps, interdiction de pratiquer les rituels de passage à l'âge adulte, interdiction de plein de choses. Et les traditions dont on parle dans le livre, les traditions des Surui sont très belles. Et elles correspondent à un mode de vie qui est représentatif de leur peuple. Alors Almir a très bien compris ça. Il a dit il faut réintroduire les rituels, il faut réintroduire les peintures rituelles, parce que tout ça fait partie de la cohésion du peuple. Ça va régler les dissensions. Ça fait, c'est... Donc vous parliez tout à l'heure de démocratie, mais c'est un véritable modèle de démocratie. Et Almir, pour s'adapter justement à la modernisation de ce monde, qui accepte maintenant aussi bien les traditions que Internet, et Almir dit très bien, je suis aussi à l'aise avec un arc et des flèches qu'avec Facebook, Twitter ou YouTube. C'est ça
et
qui est formidable.
Et à l'inverse, quand on se regarde, on se dit on ne serait pas très à l'aise avec un arc et des flèches.
Voilà. Mettons-nous dans la forêt, on va voir ce que ça va donner.
Exactement.
Voilà.
Il y a des compétences, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être. C'est tout ce que vous avez trouvé là-bas.
Ce que j'ai trouvé là-bas. Ouais. Et surtout, bon, Almir a très bien compris que le nerf de la guerre, c'était l'argent. Et que tant qu'il serait plus rentable de détruire la forêt que de la préserver, on allait continuer de la détruire. Alors il a dit, moi je vais vous montrer un exemple et je vais vous expliquer comment on peut faire en sorte de gérer la forêt et que ces ressources nous rendent plus indépendants économiquement et que ces ressources soient vraiment rentables, plus rentables que si on la détruisait. Donc, il a dit, on va commencer déjà à reforester tout ce que les déforesteurs ont enlevé, ont abattu comme arbre. Il faut dire que sur leur territoire, seulement 5% a été déforesté parce qu'il faut qu'ils vivent et ils ont besoin de culture et ils ont besoin de choses comme ça.
Par chance. Hein.
Par chance, par voilà. Chance. Mais quand ils cultivent, ils ont toujours la notion de « il ne faut pas fatiguer la terre ». Donc ils savent depuis des milliers d'années qu'on ne doit pas cultiver toujours au même endroit les mêmes plantes. Donc ça, pour eux, c'est un mode de vie naturel, c'est leur mode de vie. C'est-à-dire qu'on respecte l'environnement dans lequel on vit, on fait en sorte qu'il soit durable. Parce que si on a un territoire de 250 000 hectares, c'est la taille de leur territoire à peu près aujourd'hui, ça fait 10 fois la ville de Paris et 2 fois la ville de New York. Comme ça vous donne une idée. Ça paraît beaucoup à nous occidentaux qui avons des terrains qui font peut-être 1000 mètres carrés.
On fait de l'intensif, madame.
On fait de l'intensif. Mais quand on vit des ressources de ce territoire, donc de la chasse, des animaux et de la culture, c'est juste suffisant. Alors, ils savent le gérer, ce territoire. Et ils nous apprennent aujourd'hui, par exemple, en développant la culture de café biologique, en, ils ont un projet dont m'a parlé Thomas, donc de faire un cacao sur Huy, par exemple. Donc, tous ces projets, puis la reforestation aussi, le projet de compensation carbone qu'il a mis en place, ça aussi, c'est un...
Il a inventé un vrai modèle économique.
Donc, qu'ils appellent le plan de gestion durable de la forêt sur 50 ans. Vous vous rendez compte aujourd'hui, qui dans nos dirigeants est capable d'avoir une vision à si long terme? Alors, c'est sûr que diriger 1400 personnes et 60 millions, ou voilà, c'est pas la même chose. Mais
on pourrait faire des camps d'entraînement pour chefs d'État.
Mais exactement. Oui, où on prend le temps d'écouter ce que les autres ont à dire et on prend le temps d'avoir une vision à long terme. Et non seulement on a une vision à long terme, mais on arrive à convaincre son peuple. Parce qu'ils ne prennent jamais aucune décision sans que tout le monde soit d'accord.
Mais le sens de la possession, parce que c'est vrai que c'est quand même un mal occidental, ou ce n'est pas qu'un mal occidental? Parce que c'est vrai qu'on vous parliez de l'argent, on parle de la terre. Il y a une idée de possession ou pas?
Mais il n'y en avait pas.
Justement. Voilà, alors aujourd'hui, elle est arrivée.
Aujourd'hui, elle est arrivée grâce aux produits de consommation. Donc le travail d'Almir, ça a été de dire, parce que les Indiens, on le dit dans le livre, rien n'est caché. Ils sont pas merveilleux non plus. Je veux dire, ils disent réellement les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas de revenus, quand on est dans la forêt et qu'on n'a plus de revenus et qu'on est devenu dépendant des produits de consommation, on a envie d'avoir une télé, un ordinateur, on a envie d'avoir tout ça.
La graine est très plantée.
La graine, oui, exactement. Et c'est ce qu'on fait quand le contact a été établi, le gouvernement appelait ça le front d'attraction. Front d'attraction, ça veut bien dire qu'on va les attirer avec du miel, en gros. Et donc, c'est vraiment une ruse de guerre. C'est vraiment une façon de... Donc, ce front d'attraction se faisait par des objets de consommation qu'eux n'avaient pas. Donc, qui étaient des miroirs, des couteaux, des objets qui s'avéraient utiles pour couper les arbres ou pour... Et donc, une fois que ces objets, qu'ils en étaient devenus dépendants, qu'ils ont créé le besoin, voilà. Après, il était facile de dealer avec eux. Mais ce besoin, il est resté dans la tribu. Voilà, il est resté. Et comment on deal avec ça, une fois qu'on a envie d'avoir une télé, un réfrigérateur, on a envie d'avoir tout ça, comment on fait? Les déforesteurs vont les voir et ils essaient de créer des dissensions entre les différents
proposer
clans
plus
et peuples.
À l'un, à l'autre,
voilà, et puis si tu me vends ce bois, moi, je te donne ça, pas à ton voisin, mais juste à toi. Et truc. Donc, Almir a dû aussi faire prendre conscience à son peuple que s'il continuait de vendre du bois pour avoir des revenus qui étaient des revenus à court terme finalement, que bientôt ils n'auraient plus de bois et que leur peuple allait disparaître tout simplement. Donc c'est long pour faire comprendre ça, parce qu'on a tous envie de posséder des choses, c'est difficile d'avoir des rêves et de ne pas pouvoir les faire parce qu'on se rend compte que ce n'est pas un projet à long terme.
Au nom de...
C'est pas nous qui allons donner les leçons. Hein. Voilà. Donc il a fait ce travail et ils ont réussi, il a réussi à faire voter un moratoire qui interdisait de couper, avec l'accord de tout le monde, qui interdisait la coupe de bois sur son territoire. Et c'est pour ça qu'il a inventé les produits biologiques, la pisciculture, l'histoire des compensations carbone, qui est un projet très très important qui lui tient à cœur, et qui permet aujourd'hui à la tribu d'être payée par des sociétés polluantes pour entretenir la forêt. Et pour la garder sur pied. Le travail d'Almir, c'est pas seulement je parle, mais aussi il concerne les sociétés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui le marché carbone en disant que c'est une marchandisation de la nature. Mais Almir leur dit, oui, d'accord, mais on a quoi en échange? Vous proposez quoi, vous?
Il n'y a pas de solution.
Voilà.
Il faut bien.
Donc aujourd'hui, grâce au système RED+, on permet à des gens qui dépendent de la forêt, on leur permet d'avoir des revenus pour entretenir cette forêt. Et puis en plus, quand une forêt fait l'objet d'un contrat carbone, il est plus difficile pour les déforesteurs de les attaquer et de les voilà.
Et soient entendus. Voilà. Et en tout cas, ils ont un excellent porte-voix avec
vous.
Corinne Sombrin, notre invitée jusqu'à 14h pour parler de Sauver la planète aux éditions Albin Michel. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Quand je vous disais que Corinne Sombrin était multicouche, avait eu plusieurs vies, on va en parler. Juste après, un homme qui connaît bien le Brésil et qui s'en est inspiré, c'est Bernard Lavilliers sur la première. Vivre encore, et on se retrouve juste après.
Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure, faut vivre encore. Combien de ratures, combien de nuits blanches pour toucher de près ce chant qui monte, ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli et vivre encore. Vivre encore. vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur! Ce qu'il faut courir pour avoir le souffle, ce qu'il faut sentir au-dessus du gouffre, ce qu'il faut cacher pour un mot d'amour, ce qu'il faut tuer pour revoir le jour. Et vivre encore, vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Ce qu'il faut lâcher pour cette altitude, ce qu'il faut forcer pour la solitude, faut de la présence pour tenir la scène, prendre des distances pour tenir la tienne. Et vivre encore, vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais fini. Quel vainqueur!
Quelques informations routières et la suite d'Écosystème dans quelques instants.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Genève-Ost, un temps d'attente de 3/4 est toujours annoncé au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. Sur l'axe Lucerne-Chiasso, un bouchon de 4 km est signalé entre Amsteg et le portail nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin, soit 40 minutes de patience environ. Et puis dans l'autre sens, les colonnes s'étendent également sur 4 km aux abords de l'entrée sud, cette fois-ci du tunnel, ce qui correspond à une attente de 45 minutes.
Nous recevons cet après-midi Corinne Sombrin, écrivain, voyageur, curieuse, forcément. Et dans son dernier livre, c'est un voyage, vous l'avez entendu, dans l'état du Rondônia au Brésil, une rencontre avec les surhuis. Ce livre, Sauver la planète, paru chez Albin Michel, est une sorte de testament, vous le disiez aussi, hein, de testament d'Almir Narayamoga Surhui, le chef. Testament parce que, on le redit encore une fois, il risque sa peau. Donc voilà. Il faut que les choses soient dites une bonne fois pour toutes.
Contrat de 100 000 dollars sur la tête. Et il y a quelque chose qui est très beau, qu'il a fait. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il s'est baladé avec ses gardes du corps partout. Vous voyez la lourdeur de la chose dans des policiers de la police fédérale. Ça correspond vraiment à des forces spéciales. Et un jour, il a dit mais en fait, c'est pas moi qu'on doit protéger. Je suis pas le seul à protéger. Ils étaient 7 seulement au Brésil à avoir une telle protection. Et il était le seul Indien de ça. Et un jour, il en a eu marre et il s'est dit, en fait, c'est le gouvernement qui doit changer les règles et faire en sorte de punir ceux qui méritent et qui veulent nous assassiner, mais c'est pas moi qui vais vivre en permanence avec des gardes du corps. Donc aujourd'hui, je les veux plus. Je prends le risque, mais parce qu'il y a autant de gens, je suis pas le seul à être dans cette position. Donc on me protège moi aussi parce que je suis célèbre aujourd'hui. J'ai fait bouger beaucoup de. Donc ça les embêterait qu'on m'assassine. Mais en fait, il y en a plein d'autres que moi. Et en faisant ce geste-là, je veux pousser le gouvernement à agir sur ces gens qui veulent nous assassiner et qu'ils soient jamais punis. Parce que c'est ça qui se passe au Brésil.
Donc,
en fait,
c'est à nouveau changer le système, changer les choses.
Veut, voilà, c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire que je veux plus de protection et vous changez votre système et que ce soit les gens qui veulent nous assassiner qui soient punis, mais pas nous. Moi, je suis pas un criminel. Moi, je pense que ce qu'on fait, c'est bien. Donc, pourquoi c'est moi qui devrais me balader avec des gardes du corps
et avoir la vie empêchée quelque part, parce que Exactement. Ça empêche. Vous avez beaucoup voyagé, je le disais. Vous avez raconté dans différents ouvrages précédents vos extraordinaires voyages, alors en Mongolie, en Amérique du Sud, et durant ces voyages, vous avez fait un magnifique voyage intérieur, Corinne Sombrin, puisque vous avez découvert que vous êtes chamane. Vous touchez, alors on va en parler évidemment, à des états de conscience inconnus. Ça vous est tombé dessus en 2000, vous étiez en reportage. En 2000, c'est vrai que le mot chaman était un peu nébuleux. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il s'est démocratisé, popularisé, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Hein.
Oui, parce que c'est devenu un peu un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des chamans profitent de l'intérêt qu'ont les occidentaux et les touristes occidentaux pour cette façon d'accéder à d'autres, à une autre. Enfin, c'est la même réalité pour eux, mais c'est une façon différente de la percevoir. Il y a beaucoup d'abus, beaucoup de choses pas sympas qui se tournent autour de ça. Mais moi, ce que j'en vois, c'est l'intérêt grandissant de la population occidentale pour développer ses capacités, aujourd'hui on appelle ça capacité intuitive ou perceptive, qui nous permettent d'accéder à un rapport plus global à notre réalité.
Alors, dans notre culture, Corinne Sombrin, on n'a pas d'équivalent au chaman.
On en a eu, mais on n'en a plus. Mais pourtant, il y en a plein, des gens qui ont développé ces capacités.
En fait, on les appelle pas simplement.
Ils ne savent pas qu'ils sont chamans. Voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Si j'étais pas allée en Mongolie faire ce reportage pour BBC World Service, j'aurais jamais su que j'avais des capacités qui sont identifiées comme chamaniques en Mongolie, par exemple. Voilà. Donc le fait d'entrer en transe au son d'un tambour et de perdre complètement le contrôle, se transformer en. Bon, j'étais un loup, j'avais vraiment l'impression d'avoir.
Vous avez commencé par la sauterelle, me semble-t-il.
La sauterelle, c'était en Amazonie.
Ah, voilà, c'était en Amazonie.
Voilà. Oui, mais il y a tout un bestiaire comme ça. Donc au début, c'était le loup en Mongolie. Et donc, c'est ce qui leur a fait dire que si le son du tambour me faisait cet effet-là, c'est que j'avais été désignée par les esprits, que j'avais le don. Et alors, après, mon travail, ça a été d'abord de comprendre ce que voulait dire ce monde des esprits. Mmh. Parce que pour eux, les esprits sont les gardiens du maintien de l'harmonie dans le monde. Donc, créer une dissonance dans ce monde et même dans notre environnement, c'est énerver les esprits, forcément. Donc, pour vous faire comprendre que vous créez une dissonance, ils vous envoient des problèmes. Mais ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'en Mongolie, par exemple, les chamans vous disent que les esprits ont un moyen de vous parler. Et c'est qu'est-ce que c'est ? C'est l'intuition, justement. Donc, en Mongolie, l'intuition est le véritable langage qu'utilisent les esprits pour vous prévenir d'un danger, pour vous prévenir que vous êtes en train de créer une dissonance et que ça va les énerver et que vous avez intérêt à arrêter très vite. Alors, quand on n'écoute pas son intuition, on prend les problèmes dans la figure. Et alors là, on va voir le chaman et on lui dit, j'ai dû faire une bêtise qui a énervé les esprits. Est-ce que tu peux pas savoir ce que c'est ? Parce que le rôle du chaman, en Mongolie du moins, est d'aller demander aux esprits quelle est la bêtise que vous avez pu faire pour les énerver. Voilà. Donc, il revient avec une réponse. Alors, vous recommencez pas la bêtise. Bien sûr, c'est une réponse symbolique souvent, mais parce qu'on n'a pas respecté, ça tourne toujours autour de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la nourriture qu'on mange, on n'a pas respecté son troupeau, on n'a pas respecté son environnement, parce que la grande histoire du chamanisme, c'est ça, c'est une histoire d'équilibre et de respect, de vivre en harmonie, voilà, c'est ça. Et donc, ce qu'on retrouve chez les Surui, chez toutes ces populations, c'est tout faire pour vivre en harmonie. C'est encore leur culture à eux. Nous, on l'a perdue, mais eux, ils sont toujours là-dedans. Et c'est ça qu'il faut entendre dans leur message, c'est que ils savent encore comment vivre en harmonie. On disait à Almir, il n'y a pas longtemps, on lui disait « Mais si la société se casse la figure, les Indiens vont disparaître et tout ça. » Et il a rigolé, il a dit « Mais c'est vous qui allez disparaître, parce que nous, on sait se débrouiller dans une forêt. donc, faites en sorte de la protéger, cette forêt, parce que dans le futur, c'est elle qui va vous nourrir, vous allez voir. Et puis nous, aujourd'hui, on vous l'offre, écoutez-nous. On vous explique comment faire avec cette forêt. »
Mais par exemple, les expériences chamaniques que vous avez commencé par connaître, effectivement, du côté du Pérou, du côté de la Mongolie, et chez les Surui, il y a aussi, vous faisiez allusion, il s'appelle le Ouin-Ouin, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Et on est dans trois pratiques totalement différentes. Le lien, c'est quoi ? C'est la musique ? C'est
le lien, c'est trouver un moyen d'accès au monde des esprits, toujours. Parce que ce monde des esprits est là pour nous envoyer des messages, pour nous dire attention et pour nous dire vous êtes dissonant. Voilà. Donc ce monde des esprits, on doit absolument arriver à entrer en contact avec eux parce qu'ils nous protègent. Voilà.
Mais question naïve, Corinne Sombrin, les esprits, est-ce qu'ils vous suivent ? À chaque fois, vous en rencontrez des différents ? Est-ce qu'il y a une fidélité ? Vous avez vos esprits habituels qui vont, que vous soyez, vous accompagnez ?
On s'est posé la question la première année où en Mongolie, je me transformais en loup. Et le chaman vous explique que ce loup est l'esprit qui vient vous posséder. Et en vous possédant, il vous donne ses pouvoirs. Donc je me suis dit peut-être qu'à Paris, il n'y a pas de loup, il n'y a que des Yorkshire ou des chiens. Donc peut-être que je vais me transformer en Yorkshire ou en Chihuahua ou je ne sais pas. Et donc on a fait l'expérience et je ne me suis pas transformée en Chihuahua. Pas encore. Mais quelquefois, il y a des chiens. Hein, mais je n'ai pas reconnu le chihuahua encore. Mais en revanche, le loup est toujours là. Donc, eux vous disent que chaque chaman a ses propres esprits qui, apparemment, donc, peuvent les suivre. Parce que mon travail à moi, en tant qu'occidentale, c'est de savoir où est la part de symbole et où est la part de réalité telle que nous l'entendons. Donc, moi, ce qui m'a intéressé de voir pendant la transe, c'est qu'elle me donnait effectivement accès à des informations que je n'avais pas dans un état de conscience ornidaire. Et que ces informations, que eux appellent les messages des esprits, que ces informations étaient des ressources intéressantes. Alors, c'est là que j'ai décidé d'entrer dans des laboratoires de recherche pour que on fasse des EEG de mon cerveau.
Voilà, vous étiez pragmatique, enfin, comme une sombre, voilà.
Ben, comme tout le monde
priori,
ici, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je veux comprendre.
Vous n'étiez pas éthéré, vous n'êtes pas allé là-bas en cherchant quelque chose. Vous avez, ça vous est tombé dessus. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est qu'on vous dit, à partir du moment où on vous reconnaît, on vous identifie comme chaman, on ne vous laisse pas tellement le choix. C'est-à-dire que c'est soit tu vas dans cette voie-là et tu persistes jusqu'au bout, sinon les problèmes que tu as eu et vous en avez eu, des accidents de vie avant tout ça, bah, c'est rien, c'est un apéritif et ce qui va suivre. Donc il y a un côté un peu.
Oui,
il y a
un peu. Côté menace. Hein.
Coercitif.
Oui, oui, exactement, un côté menace.
Ça,
mais c'est pas gentil. Non, je l'ai trouvé qu'il n'était pas sympa le chaman en me disant ça.
Ouais.
Et j'ai compris aujourd'hui que, en fait, ça revient toujours au même. C'est-à-dire que si on n'est pas en phase avec ce qu'on est ou ce que eux. Enfin, ils vous disent ce que les esprits ont décidé pour toi. Bah, si t'es pas en phase, bah, forcément, il t'arrive des problèmes et il t'en arrive de plus en plus. Alors oui, c'était pas sympa. J'ai fini par accepter, mais il m'a dit que je pouvais y aller plusieurs fois. Enfin,
oui, parce
fois
que
par
c'était normalement, c'était trois ans.
Trois ans avec eux.
Trois ans, et puis voilà, finalement, vous avez dilué sur huit ans.
Oui, j'ai dit, je préfère une formation alternée plutôt qu'une formation continue. Donc,
mais la cartésienne que vous êtes, ce qui est formidable, c'est qu'elle en fait quelque chose. Quand je disais, vous êtes une psychonaute, c'est-à-dire que vous êtes vraiment aujourd'hui une exploratrice. Vous êtes allée prendre votre bâton de pèlerin, votre tambour, prenez ça comme vous voulez, mais pour aller voir des médecins en disant, j'aimerais qu'on comprenne et qu'on étudie ce qui se passe dans mon cerveau.
Oui, c'est ça. Parce que bah, pendant la transe, par exemple, j'avais plus de force que dans un état normal. Je ressentais quasiment pas la douleur. J'avais ces visions que donc ces animaux, ces personnages, c'est ça que eux appellent esprit. Et non seulement ça, mais en plus ils me disaient des trucs qui étaient cohérents avec ce que je pouvais vivre ou ce que j'apprenais après. Et c'était juste. Alors je me disais, c'est quand même un outil extraordinaire, mais c'est quand même pas magique. Si j'arrive à cet état, c'est que le son du tambour provoque une modification du fonctionnement de mon cerveau. Ça, c'était une intuition au départ. Et donc, j'ai voulu vérifier. Parce que dès que le tambour s'arrêtait, pouf, je redevenais Corinne que j'avais l'habitude d'être. Je n'étais plus un loup ou un cheval.
Mais vous avez eu peur, des fois, de ne pas redescendre, entre guillemets, de ne pas revenir dans votre peau?
C'est ce que le chaman m'a dit. Il m'a dit, au début, c'était très dangereux, la première fois que ça m'est arrivé. Parce qu'il m'a dit, j'ai mis 2 heures à te ramener, tu as failli mourir. C'est-à-dire pour eux que l'âme ne revient pas et que donc on reste. Je serais restée bloquée en loup.
Mais aujourd'hui, vous maîtrisez ça par chance.
Voilà. Aujourd'hui, je le maîtrise. Et puis, ils vous disent que plus on pratique et plus on maîtrise l'aller-retour dans cet état. Et donc, les scientifiques que j'ai réussi à convaincre de faire un EEG de mon cerveau, sans savoir ce qu'ils pourraient y trouver, ils ont montré. Et donc, on a prouvé aujourd'hui que la transe était le résultat d'une modification du fonctionnement du cerveau. Et que c'est peut-être grâce à cette modification, ou à cause, je ne sais pas, de cette modification, qu'on avait accès à juste une autre façon de percevoir la réalité. Il faut bien comprendre que le cerveau est une interface. Que cette interface, on la modèle depuis notre enfance, peut-être avant, je ne sais pas.
La plasticité dont on parle
donc
aujourd'hui.
Donc on la modèle, cette interface. Et si tout d'un coup, on l'oblige pour une raison ou pour une autre, avec le son d'un tambour, avec une danse ou avec un psychotrope, si on l'oblige à fonctionner différemment, cette interface, elle nous donne accès à d'autres informations qui, pour les chamans, sont également la réalité. Et dont ils arrivent à tirer des informations intéressantes pour la communauté.
Donc, c'est les fameux états modifiés de conscience.
Exactement, états modifiés de conscience, qui s'avèrent être un outil vraiment intéressant, et dont on a montré que c'était un potentiel du cerveau, et que même si tout le monde ne l'avait pas développé, qu'il y avait sans doute probablement des moyens de le développer, et que ceux qui l'ont développé sont appelés chamans par les chamans traditionnels.
Mais qu'est-ce que ça a changé finalement en vous, Corinne Sombrin, dans le quotidien? Alors, si on parle de transe, aujourd'hui, vous avez développé des capacités. À la demande des chercheurs, d'ailleurs, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'objets transitionnels, de musique, etc. Vous pouvez entrer en transe sans aucun instrument.
Par la volonté. Oui.
Par la volonté. Est-ce que ça a changé pour vous une manière de réfléchir et de fonctionner? Ces perceptions que vous avez
Ben oui, parce que ça m'a donné confiance en mes capacités. C'est-à-dire, ça m'a donné confiance en ma capacité à avoir des réponses. que je cherche, que je ne trouvais pas avant, mais que maintenant, cet état permet de révéler, en tout cas. Comme si tout d'un coup, j'avais un outil supplémentaire pour explorer la réalité, pour explorer mon environnement, pour explorer ce que je suis moi, pour explorer plein de choses. Donc ça, ça change énormément. Et c'est pour ça, c'est en découvrant ça que j'ai eu envie de développer ces techniques et de faire en sorte, aujourd'hui, on essaie de développer des outils qui permettraient tous ceux qui voudront d'y accéder sans forcément passer par une initiation chamanique et de retirer l'outil de son univers traditionnel.
Et puis, et ce qui est formidable aussi, c'est que les médecins qui vous accompagnent dans cette recherche et dans cette exploration, ils voient aussi des implications extrêmement pratiques sur ces gens qui ont des problèmes de schizophrénie, de grave dépression. Enfin, je veux dire, c'est pas juste pour la beauté du geste et de l'étude. Il peut y avoir des implications extraordinairement concrètes à tout ça.
En psychiatrie, c'est une piste parce qu'ils ont trouvé que pendant la transe, le professeur Florent Ri, qui est de l'hôpital Edmonton au Canada, a trouvé que pendant la transe, si on comparait les EEG à des groupes contrôle qui souffraient, un, de schizophrénie, deux, d'état maniaque et trois, de dépression, l'état du cerveau pendant la transe était similaire à ces trois pathologies à la fois. Les tracés EEG étaient similaires à ces trois pathologies à la fois. Donc, quand il a vu ça, il s'est dit, c'est super dangereux. Donc, il m'a dit, il faut arrêter ça tout de suite. Parce que, pour moi, c'est carrément...
C'était mal vous connaître. Hein.
C'était une psychose, c'était une psychose généralisée. Moi, il m'a fichu la trouille quand même. Hein, parce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me dit que ton cerveau va pas rester bloqué dans cet état-là et que tu vas en revenir. Je lui dis oui, effectivement, il y a un risque de pas revenir, mais c'est ça, si le chaman avec qui vous pratiquez ça n'est pas compétent, il y a vraiment un risque de rester bloqué. Or, si on voit mon expérience, le chaman a dit qu'il avait su me ramener de cet état. Donc eux, ils appellent ça un état de décompensation psychotique. Voilà. Donc cet état de décompensation psychotique, d'accord, j'y suis allée, mais le chaman a su m'en ramener. Donc ma question à moi, c'était, est-ce que ces techniques de transe, justement, ne seraient pas un moyen de ramener des gens qui seraient bloqués dans ces... qui auraient la pathologie, ça veut dire rester bloqués dans ces états. Est-ce que ce ne serait pas un moyen de ramener ces gens-là, puisque lui, il m'a ramené de cet état de décompensation psychotique. Alors, le professeur Florent Ri m'a dit, mais n'importe quoi, voilà, pour moi c'est dangereux, ça reste dangereux, parce que moi j'étais prête à faire des expériences avec les malades. Il était chef du service de psychiatrie adulte, donc beaucoup de gens souffraient de schizophrénie grave. Et là encore, il m'a dit, mais ça va pas, non, je vais certainement pas te prêter mes malades, parce que, un, ça peut être dangereux pour toi, et deux, il y a des systèmes d'assurance qui font que... Il est hors de question de faire des expériences comme ça dans un hôpital comme ça. Mais bon, peu importe, parce que la question a été posée et ça intéresse d'autres chercheurs aujourd'hui qui pensent que cet état du cerveau pendant la transe n'est pas du tout pathologique, mais qu'il est simplement un état qu'on ne connaît pas. Donc forcément, si on compare à un état du cerveau à l'état normal, c'est pathologique, mais pour d'autres, on ne connaît pas cet état et on ne peut pas dire qu'il est pathologique puisque c'est un nouvel état. Et c'est peut-être un état qui nous permet justement d'accéder à ces informations que les traditions appellent le monde des esprits, mais qui sont utiles parce qu'elles leur donnent des informations. Voilà.
Donc, justement, quel lien vous avez-vous avec vos esprits ?
Avec mes esprits, ce sont des amis. Voilà.
C'est ça, mais ce sont des amis. Mais ce sont conseillers, des conseillers, c'est quoi ?
Oui, c'est tout ça. Voilà. Donc après, on vit avec ça. Ça fait un peu bizarre de le dire. Moi, j'ai toujours du mal.
C'est vous. Hein.
Mais bon, après, ça n'engage que moi. Et toute la société occidentale nous a appris à perdre cette confiance en nous. Parce qu'il y a des spécialistes aujourd'hui, il y a celui de là, il y a celui qui spécialise de ça,
on va chercher,
de ça.
On va chercher,
on va chercher, voilà.
On sait où.
Mais nous, on n'a plus le droit de savoir. Alors qu'on a en nous des capacités, des ressources qui sont vraiment, vraiment très intéressantes, auxquelles on doit faire confiance. Mais ça, on n'a plus appris à s'en servir. Donc c'est ce travail qu'on fait en disant, mais c'est pas si bête.
Question totalement naïve. Je sais que vous êtes partie la première fois pour fuir une perte extrêmement douloureuse. Ça a changé votre rapport avec la mort, justement ? Il y a cette idée de l'au-delà qui rassure quand on est dans ce genre de dimension ?
Ben oui, parce que on a l'impression que autre chose existe, que tout se transforme et que c'est là parce que on les voit, ces personnages. Alors parmi eux, il y en a qui sont plus là, il y en a, on ne sait pas où ils sont. Ben il y a aussi l'esprit de la montagne, il y a des tas de personnages. Il y a l'esprit de l'arbre et donc c'est rassurant. Oui, moi ça m'a persuadé que ça s'arrêtait pas là. Voilà. Pour eux, c'est évident, ils ne se posent même pas la question. Et quant au rapport aux esprits, l'esprit de l'arbre dont on parle dans le livre, du Pacob, par exemple, qui est une magnifique histoire, ce jour où un clan part en guerre contre un autre et il va affûter les flèches sous un arbre et se préparer à attaquer. Et l'arbre s'adresse au chef du clan et lui dit « Mes enfants, où allez-vous ?» Et le chef ne prend pas la peine de répondre à l'arbre. Et lorsqu'ils vont rencontrer l'autre clan, ils sont tous tués. Alors, c'est une parabole magnifique de nos gouvernements aujourd'hui. Est-ce que si l'arbre leur posait cette question, « Mes enfants, où allez-vous » ils sauraient quoi répondre? Est-ce qu'ils prendraient le temps d'écouter la question? Pour se poser la question d'un futur durable, il faut déjà savoir ce qu'on veut comme futur. Donc, « Mes enfants, où allez-vous » qui est posé par l'arbre Pacob, moi je trouve ça magnifique. Et c'est en ça que les esprits... Voilà, il nous pose des vraies questions, il nous donne des indications qu'il faut apprendre à écouter. Et donc, si l'arbre nous posait cette question aujourd'hui, il faudrait répondre, qu'est-ce qu'on veut comme futur ? Qu'est-ce qu'on veut comme futur ?
On a 4 minutes 09 pour y répondre, parce qu'on va écouter Émilie Loiseau et Pays Sauvage et rester avec Corinne Sombrin pour la dernière partie de ce passionnant entretien autour de sauver la planète. Mais vous avez bien compris qu'on déborde dans toutes sortes de choses. Le livre est paru chez Albin Michel. À tout de suite pour la dernière partie d'Écosystème.
Te souviens-tu du pays des oiseaux? Tu sais, celui où il fait toujours beau. On dit qu'il n'existe plus. On dit qu'il a disparu. Et dans mes songes, je gravis des montagnes. À l'horizon, les rivières s'éloignent. Ils ont tué les oiseaux. De toi, mais il est mort, il est froid. Du bout des doigts, je caresse la vase. Dieu qu'il était émouvant, ce mirage. J'ai entendu le cri du vent et j'ai pleuré doucement. Il est... Château de sable qui périt sous la vague. Tout se casse, dis-moi ce qu'il se passe. Je le trouvais si beau, notre pays là-haut. Te souviens-tu du pays des oiseaux? Disparu.
Sauver la planète, c'est le message d'un chef indien d'Amazonie. Il s'appelle Almir Narayamoga Surui. Il est accompagné de Corinne Sombrin, son porte-parole, son attaché de presse. Vous avez beaucoup bougé avec Almir pour présenter justement votre livre et sa
cause. Oui, on a beaucoup bougé, on a beaucoup travaillé. Il a fallu qu'on crée une confiance entre nous par la vie de tous les jours, par le vécu des émotions aussi, de tout ce qui peut se passer dans une vie en commun, dans la forêt.
Parce que vous y êtes resté combien de temps?
Je suis restée un mois avec lui dans la forêt, avec Thomas et Agnès. Et puis après, Almir est beaucoup venu en Suisse, où on a continué à travailler. Parce qu'il ne faut pas se tromper. La difficulté qu'on a, c'est toujours de dire à la place de l'autre. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le travail que fait Thomas, c'est qu'il fait en sorte que ce soit eux toujours qui décident de combien ils vont... Et ils ont reforesté 170 000 arbres quand même, hein. Déjà. Donc ils ont en projet, dans le plan de 50 ans, 1 million d'arbres.
Corinne, je me demandais justement à travers les rencontres que vous avez faites au fur et à mesure de votre vie et ces passages si forts, comment vivent-ils encore en vous tous ces gens que vous avez croisés, que ce soit cette femme chamane en Mongolie ou Francisco au Pérou? Comment sont-ils encore en vous?
Par les exemples qu'ils me donnent, par leur beauté, tout simplement, par ce qu'ils m'ont donné, par leur générosité. Donc ils vivent en moi et j'ai envie après de partager tout ce qu'ils m'ont apporté, parce que c'est un magnifique cadeau.
Alors, ce genre de message est vraiment dans le livre, c'est très fort, puisque vous décortiquez ce système de fonctionnement. On entend, on voit, on lit comment ils vivent, comment ils interagissent, leur manière de fonctionner, de ce dont on parle depuis 13 heures. Je me disais, en même temps, il y a toujours un sentiment de, qu'est-ce que je vais vous dire, de découragement ou de questionnement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, individus, bipèdes suisses, pour s'approprier un petit bout de quelque chose, de tout ça?
La première chose, dit toujours Almir, c'est de devenir des consommateurs conscients. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'on ne va pas arrêter de consommer. Ça, il a compris, et c'est normal. Mais en revanche, on peut faire attention à ce qu'on consomme, c'est-à-dire savoir d'où viennent les produits et savoir si c'est compatible avec un futur durable.
Le fameux consommateur qu'on nous encourage à être.
Exactement, consommateur conscient qui sait que ce qu'il consomme est compatible avec un futur durable. Voilà, ça c'est une chose. Après, bon, bah, évidemment, faire attention... à l'énergie qu'on consomme, faire attention à l'eau qu'on consomme, faire attention à tout ça. Mais je crois qu'il y a eu un véritable changement dans les consciences et les nouveaux arrivants sur la planète sont déjà bien, bien, bien plus conscients que nous de la gravité de l'État et de ce qu'il faut faire. Et puis en plus, quand une forêt fait l'objet d'un contrat carbone, il est plus difficile pour les déforesteurs de les attaquer et de voilà. Alors c'est pour ça que ça énerve vraiment les déforesteurs clandestins, c'est que Almir devient, parce que plus il utilise...
C'est un peu comme dans les arts martiaux, c'est-à-dire qu'on utilise la force
exactement.
Voilà, de l'autre.
Et plus on parle de lui, plus arrive à faire parler de... Plus il devient un personnage important, plus il est difficile de l'assassiner.
Et un prix des droits de l'homme.
Et un prix des droits de l'homme.
Il est reçu ici à Genève.
Voilà, exactement. Dilma Rousseff lui a remis aussi le prix des droits de l'homme brésilien en 2013. Donc aujourd'hui, il est devenu un personnage qui a réussi, parce qu'il sait bien que tout seul, il n'arrivera à rien, et qu'il faut concerner le plus de gens possible qui vont faire pression auprès des gouvernements, qui d'un coup vont se trouver stupides de faire ce qu'ils vont, parce que la norme, tout doucement, la norme change et qu'on finit par trouver normal de protéger la forêt, on finit par trouver évident qu'un jour elle pourra nous servir et que le message des Indiens, qui sont les gardiens de cette forêt, qui savent très bien comment la gérer, est important.
Alors il a, Almir, en plus une volonté farouche de transmission. Cette création d'Université de la forêt pour transmettre son savoir, c'est pour nous donner une chance, nous, pauvres occidentaux, le jour où tout sera fini, qu'on puisse s'en sortir.
Exactement.
Non, c'est pas ça. Mais, enfin,
c'est aussi partager ça. C'est-à-dire, il veut partager et il dit, voilà, nous, la forêt, c'est notre école, c'est notre supermarché, c'est notre professeur, c'est tout ça. Et la forêt, elle nous donne... Il y a seulement 2% qui ont été étudiés de la forêt et qui ont fait l'objet de médicaments. 2%, c'est ridicule. Il dit les 98%, vous vous rendez compte ce que ça peut, le potentiel que ça peut nous apporter et comme aide dans le futur. Donc c'est toute cette connaissance qu'il veut mettre à la disposition de nous tous, qu'il veut partager, parce qu'il sait que ce que nous savons et ce que eux savent, si on le mélange, ça va donner naissance à quelque chose de grand et qui a une chance de nous sauver dans le futur. Donc ça, c'est un message vraiment fort chez Almyre. Et donc cette université sur Huy serait là pour ça, avec des stages, des chercheurs. Ils veulent créer aussi un centre de recherche sur leur territoire où des chercheurs viendraient étudier la forêt. Ils ont un projet avec Thomas de mettre en place une pharmacie, la forêt, d'en faire une pharmacie vivante, donc qui permettrait à des chercheurs de venir étudier ça. Mais en échange avec, c'est-à-dire qu'on ne vient pas leur voler les choses et partir pour faire de l'argent avec.
Et juste mettre en valeur.
Voilà, mettre en valeur et en faire quelque chose qui sera utile aux habitants de la planète, à tous.
Comment allez-vous continuer, Corinne Sombral, votre aventure avec les survies ?
Ben en les voyant, en retournant là-bas, en les aidant, en parlant de leur combat. Aujourd'hui, si on veut aider à reforester, on peut par exemple parrainer un arbre par l'association Aqua Verde. Pour 15 euros, on parraine un arbre. Et l'argent, moi je l'ai vu, il va vraiment au Sur-Huy. Ils ont créé des pépinières dans lesquelles on voit les... Donc ce projet de... Ils ont 170 000 arbres déjà plantés. Ce projet d'en planter 1 million. Un à un, à la main, vous vous rendez compte du travail que c'est. Et ils le font pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils plantent à l'endroit où les essences ont été abattues. C'est-à-dire que cette essence, si elle a été abattue à cet endroit, c'est qu'elle, c'était son environnement favorable. Donc, il a plus de chances de pousser là, de grandir là. Donc, tout est fait en conscience. Et ça, c'est un beau modèle.
Ouais. Mais vous l'aviez déjà plus ou moins découvert quand même.
Oui, mais ça m'a appris qu'il ne fallait jamais baisser les bras. Vous vous rendez compte à quoi il est confronté ? Sa vie est mise en jeu. Aujourd'hui, il y a encore 40 camions par jour de bois qui sortent de leur territoire et ils ne peuvent rien faire parce que le gouvernement leur donne pas les moyens légaux de chasser ces gens. Mais il n'arrête pas parce qu'il sait que s'il y a le moindre espoir de faire évoluer une conscience, d'éveiller quelqu'un à ça, eh ben ce sera pour lui une formidable victoire.
Almyre, ça va être difficile sans traduction, mais je sais que vous comprenez un petit peu le français. Qu'est-ce qui vous pousse, Almyre ? Qu'est-ce qui vous encourage ? Qu'est-ce qui fait que vous continuez toujours malgré tout ?
Acreditar no potencial que Floresta tem para améliorer le monde.
De croire dans le potentiel que la forêt détient pour améliorer le monde.
Et vous êtes prêt à mourir pour ça ?
Vou morrer por isso.
Je mourrai pour ça.
Et il le
luttant.
Dit avec, et il le dit avec
en
le
luttant.
Sourire. En luttant.
Con certeza.
Avec certainement.
Porque é importante que a gente tenha futuro para as gerações futuras.
Parce que il est très important qu'on crée un futur pour les prochaines générations.
Futuro depende de mim, de você, de todos.
Et le futur dépend de moi, de vous, de nous tous.
Eu vou fazer minha parte.
Et moi je vais faire ma part.
Eu tenho certeza disso.
Et ça je le sais.
Merci beaucoup, Almyre. Merci. Il le dit avec un sourire en plus qui est totalement désarmant. C'est voilà, c'est normal.
Oui,
je
c'est
risque
vrai.
Ma peau. C'est vrai.
Ben oui.
Voilà. Bon, en tout cas, Corinne Sombra, je vous remercie d'avoir été le porte-parole. C'est vrai que c'est compliqué de parler avec Almyre, mais vous êtes vous êtes sa voix.
Mais on a fait plein d'émissions où il a parlé de tout ça, et c'est formidable l'accueil qu'on a eu en Suisse, particulièrement, qui permet à Almyre de faire passer ce message. Et vraiment, il en est vraiment très heureux et très touché.
Et il ne passe pas que par ici, parce que j'ai vu des photos dans le livre où il est à côté des gens de Google Earth, d'Al Gore, enfin...
Du Prince Charles.
Voilà, du Prince Charles.
Oui, il a réussi, c'est incroyable. Hein. Voilà. Oui, il faut dire qu'il y a 45 ans, les survies ne connaissaient pas les Blancs. Le contact n'avait pas été établi. Vous vous rendez compte de ce chemin parcouru ? C'est vraiment...
Et surtout, il ne tombe pas malade maintenant au contact des
non.
Blancs.
Non.
C'est déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sauver la planète, c'était un écosystème un peu extraordinaire, mais on a quand même beaucoup parlé de liens. Et le lien qu'on a tous, effectivement, pour en tout cas se donner les mains et essayer de sauver la planète, c'est le message. Paru chez Albin Michel, on met évidemment les références en lien sur notre site, sur la page, via le site rts.ch, sur la page d'Écosystème. Merci encore. Corinne Sombrin était notre invitée cette semaine. Un grand merci tout particulier à elle et Almir Surhuy, et ainsi qu'à Thomas Pizer pour avoir assuré la traduction. Thomas Pizer et son association Aquaverde, très actifs aux côtés des Surhuy pour la reforestation. Aquaverde, une association suisse. Si vous souhaitez encourager leur démarche, on va mettre les liens sur notre page, sur le site rts.ch. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que tout ce petit monde sera réuni début juillet à Lausanne. Ils seront invités du G21, la 5e édition de ce forum, rendez-vous de l'économie de la durabilité en Suisse. Tout ça en lien sur notre page. Merci de nous être fidèles. Merci pour vos messages. Et avant de vous quitter, quelques noms de ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission: Dany Sulam, Anne Marchand et François Piton. La semaine prochaine, sans faute, la suite c'est avec Joanne Ducé. Il est déjà 14h, bye bye.